RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis, toujours une semaine spéciale qu'on vous propose à 25 jours, si je ne me trompe pas, des élections européennes. Du 9 juin, on a déjà évoqué les grandes thématiques de ce scrutin, à savoir l'écologie, l'agriculture. Ce matin, la migration. Demain, on parlera de la défense et la paix avec Jean-Baptiste Labeur. Et donc, en effet, si on parle de l'immigration, c'est parce que c'est un sujet majeur de cette campagne, pour les candidats d'ailleurs, comme pour les Français qui l'ont placé comme le premier enjeu prioritaire de ces élections. On a évoqué ensemble le rôle de l'Union européenne en la matière. Je vous propose d'agir maintenant et notamment de nous tourner vers la jeunesse, comment la jeunesse s'empare de ce sujet au regard de l'Union européenne. On va en discuter avec nos invités. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages pour nous parler de l'Europe, de l'immigration, également des jeunes de votre entourage que vous connaissez et qui sont peut-être sensibilisés autour de ce sujet. 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et je vous présente nos deux invités dans cette émission. Je commence avec vous, Garance Foglisot, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et de nous avoir rejoint en direct de Radio Notre-Dame. Vous êtes franco-britannique, je crois que vous avez 24 ans, je me trompe peut-être dans l'âge, Garance.
Non, c'est ça.
Bon, bah super. Et si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que l'année dernière, vous avez fait un tour d'Europe, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous avez traversé 12 pays européens à vélo pour étudier les conditions d'accueil des migrants. C'était un projet fou et vous allez pouvoir en discuter avec nous. Ça s'appelait le Dignity Tour. Je vous pose cette question parce qu'on parle des élections européennes. Qu'est-ce que c'est l'Europe pour vous, Garance ?
L'Europe, je l'ai découvert pendant ce tour à vélo. On avait déjà travaillé sur l'Europe et comment on pourrait modifier sa législation en matière d'accueil des migrants à Rennes avec notre groupe citoyen. Et c'est comme ça qu'a commencé le projet au sein de ce groupe, avec des associations, des collégiens, des étudiants, des juristes. Et on s'était posé la question, comment améliorer l'accueil des demandeurs d'asile en Europe. Et c'est à la suite, on en parlera, mais des propositions qu'on a faites, que je suis ensuite allée faire ce tour à vélo en Europe pour parler de notre initiative, parler de l'accueil des exilés avec des associations, des militants, des personnes exilées, des avocats en Europe. Et pour moi, j'ai témoigné des difficultés, des problèmes, de problématiques, de questions qui ont besoin d'être résolues. Et les élections européennes sont le bon moment pour en parler, de comment on peut résoudre ces problématiques qui ont émergé. Mais ça a été aussi pour moi l'occasion, enfin c'était vraiment une chance de rencontrer beaucoup de jeunes, parce que c'est surtout avec des jeunes que j'ai pu échanger, beaucoup de jeunes très engagés, des jeunes qui proposent des initiatives très innovantes partout en Europe, et ça a été en somme très très inspirant.
Très inspirant, voilà, ça c'est votre message aussi pour l'Europe. À vos côtés, Amir Sharifi, bonjour Amir.
Bonjour Melchior Gourmand.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes le fondateur et président de la bourse Habib Sharifi. Alors Habib Sharifi, c'est votre papa, hein, tout simplement. Il est parti il y a quelques années, en 2021. Il est né au sud de l'Iran. C'était un grand poète, Habib Sharifi. Et vous lui rendez hommage à travers cette bourse que vous avez créée. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi elle consiste, cette bourse, et puis pourquoi elle porte le nom de votre papa ?
Effectivement, j'ai eu la peine de perdre mon père en 2021, le jour du printemps. Mais c'était aussi pour moi un nouveau départ, un moment où je me suis dit que il y avait de cette tristesse quelque chose de beau à construire, et en particulier de donner une voix à des personnes qui sont parfois invisibilisées, des artistes déracinés. Comme l'était mon père, finalement, qui est arrivé en France à la suite des événements de 1979 en Iran, qui a vécu en fait ce déracinement dans sa chair, qui a beaucoup souffert de cet exil, mais qui a finalement pu transcender cette épreuve par le truchement de la création poétique. Et donc, j'ai réalisé à quel point c'était important de pouvoir perpétuer en fait cette action. Et en l'élargissant, pas juste à des poètes, mais aussi à des musiciens, à des artistes visuels, et leur donner un espace de création, qui est aujourd'hui probablement l'espace le plus difficile à rendre possible, parce que les moyens qu'on peut donner à la création contemporaine sont évidemment restreints. Et donc, je voyais qu'il y avait un vrai champ d'action pour donner une voix, mais dans les deux sens du terme, une voix, c'est-à-dire un espace où ils peuvent s'exprimer, mais aussi une voix avec un E à la fin, un chemin pour qu'ils puissent aussi favoriser leur intégration et puis porter un message qui dépasse celui de l'artiste, mais qui va porter un message universel sur la puissance de la beauté quand elle est dans les ténèbres. Un peu comme dans le fameux vers de René Char qui dit « Dans les ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est à la beauté ». C'est un peu ce vers qui nous a inspirés.
Vous dites message universel, message également de la puissance de l'art, d'après vous?
Prenez quelques exemples. Je vais vous donner quelques noms. Sylvie Vartan, Amin Mahalouf, Atik Raimi, prix Goncourt 2008, Serge Gainsbourg, qui était enfant de parents immigrés d'Europe de l'Est, Alain Mabankou, qui est prix Renaudot, franco-congolais. En fait, on a beaucoup d'exemples. Sylvie Vartan était né en Bulgarie, je le signale pour ceux qui n'ont pas en tête. Mais donc tout ça pour dire qu'en fait, on a beaucoup d'exemples d'artistes qui sont arrivés en France et qui ont percé et qui ont porté des choses qui étaient bien plus vaste que leur pays d'origine. Et donc finalement, c'est un peu ça l'idée, c'est que la création artistique, elle n'est pas propre à, elle n'appartient pas à un lieu, elle n'appartient pas à un espace-temps même pas précis. Elle est porteuse d'un universel, mais pour autant qu'on lui donne les moyens, les outils d'exister. Voilà. Et donc c'est un peu ce qu'on s'est donné à cœur de faire, c'est de donner les outils et les moyens de la création en offrant en fait une résidence artistique. On a fait ça en partenariat avec la Cité internationale universitaire de Paris pendant les mois d'été où on accueille en fait ces artistes pour qu'ils aient un espace et en fait les moyens. Donc on a aussi une bourse qui leur est attribuée et puis on a tout un ensemble de partenaires qui nous aident pour à la fois les accompagner sur le plan humain, faire des masterclass. Mais aussi, je dirais, des partenaires, des espaces précis où on peut leur donner un espace où ils peuvent se produire sur scène, à la Gaîté Lyrique en particulier.
Alors, et à cette occasion d'ailleurs, on aura à partir de 10h30 Vincent Cavaroc, c'est le directeur artistique de la Gaîté Lyrique. Il nous parlera de cette forme de partenariat que vous avez su créer ensemble pour mettre en avant justement ces personnes exilées qui essayent aussi de montrer leur art. À noter que la bourse Habib Charifi, elle est portée par une association qui s'appelle Gondi Chapour. Amir Charifi, c'est une association qui a un programme un peu plus large, qui œuvre pour organiser des concerts, des manifestations sur les questions de l'exil.
Tout à fait. Donc, alors, Gondi Chapour a été fondé par justement deux artistes eux-mêmes exilés, qui sont Sina Abedi et Anoucha Nazari, qui arrivaient en France, ont commencé à résider à la Cité internationale universitaire de Paris et ont voulu aussi avoir créé une association pour héberger un ensemble de programmes culturels divers et variés, mais qui ont toujours un peu cette coloration, je dirais, un peu orientale, et qui ont eu, je dirais, la générosité de faire un espace pour la bourse Habib Charifi au moment où en fait mon père était décédé. Il fallait aller vite et donc c'était merveilleux pour moi d'avoir la possibilité de m'associer avec eux.
Garance Fuglisio, alors je reviens sur le projet Dignity Tour que vous allez nous présenter, mais il va falloir qu'on aille doucement dans la présentation parce qu'il faut comprendre pourquoi vous avez décidé de faire ce tour d'Europe à travers 12 pays, sachant que vous sortiez d'un diplôme en droit européen à l'université de Rennes à l'époque. Comment vous avez eu cette idée?
Alors l'idée, elle fait partie de toute l'initiative dans laquelle je me suis impliquée pendant que j'étais en master encore. Et on nous avait proposé d'accompagner, de proposer un accompagnement juridique à ces initiatives qui sont en train d'être créées à Rennes. Et moi, j'ai dans le groupe Cohésion sociale et avec les associations et les citoyens qui proposaient des nouvelles propositions pour changer la législation européenne en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Et donc, ça a évolué au fil de mois. Ça a pris un an pour créer cette initiative citoyenne. Et nous proposions deux mesures. Et la première était de créer un règlement européen pour régir les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Et l'avantage d'un règlement européen, c'est qu'il a un effet direct dans les États de l'Union européenne et ça permettrait d'avoir des conditions d'accueil comparables dans les États membres. Pour pallier aux différences entre les États, ce que j'ai pu observer pendant mon voyage après. Et notre seconde mesure qu'on proposait, c'était de réformer le règlement Dublin. Donc c'est le système de répartition des demandeurs d'asile en Europe. Et la règle générale dit qu'un demandeur d'asile doit faire sa demande dans le premier pays par lequel il entre dans l'Union européenne. Ça pose des tas de problèmes. Un demandeur d'asile qui arrive en Italie, enfin qui veut aller en France, parce qu'il parle français ou parce qu'il a un membre de sa famille en France, n'a aucun intérêt à faire sa demande d'asile en Italie. Et aussi, ça met la responsabilité de l'accueil sur les pays limitrophes. Et donc, nous, notre proposition, c'était d'autoriser les demandeurs d'asile à choisir leur pays de protection, ce qui a été le cas pour les déplacés d'Ukraine. Les déplacés d'Ukraine ont pu choisir leur pays de protection. Et donc, on a créé cette initiative et le mécanisme d'initiative citoyenne au niveau européen demande à ce qu'on recueille 1 million de signatures pour que l'initiative soit prise en compte par la Commission européenne et débattue par le Parlement européen. Et ce 1 million de signatures doit provenir d'au moins 7 États différents. Donc c'était ça l'idée d'aller diffuser notre initiative pour recueillir des signatures auprès des citoyens dans plusieurs pays, dans au moins 7 pays européens.
Voilà, c'est Dignity in Europe, hein, je crois, cette initiative citoyenne. Mais alors avant ça, il y avait quand même cet objectif, c'est d'aller parcourir l'Europe, 12 pays, 2500 kilomètres en moins de 6 mois. Donc ça fait quand même du sport, avec un objectif qui était vraiment très important. Déjà, c'était documenter ce que vous constatiez sur place.
Donc c'est ce double objectif de parler de l'initiative, recueillir des signatures et de documenter. Et de voir comment le droit est appliqué. Moi, je venais de mes études de droit où on apprend ce qui est censé être en théorie. Et c'était vraiment de voir comment les choses étaient appliquées en rencontrant les associations, en visitant les centres d'hébergement, en visitant des bidonvilles, en visitant le centre d'accueil sur l'île de Lesbos. Et voilà, en parlant aux exilés pour avoir ces témoignages de comment le droit est appliqué. Et ça donnait déjà, en parcourant l'Europe, on se rend compte à quel point les demandeurs d'asile ou les immigrés en général sont répartis de manière inégale en Europe. Les pays sont pas du tout confrontés au même nombre de personnes. Et ensuite, la qualité des hébergements, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi est vraiment différent dans tous les États de l'Europe.
Je suis content de vous faire rencontrer tous les deux ce matin, Garance et Amir, parce qu'on a deux projets totalement différents, mais pourtant qui portent sur un seul et même objectif, c'est de parler des exilés, tout simplement, parler de leur parcours, de montrer qu'ils ont toute leur place. Amir, quel regard vous portez sur le projet de Garance ?
Je trouve ça formidable d'avoir cette initiative déjà portée par quelqu'un de jeune qui s'engage, qui incarne finalement un peu l'Europe telle qu'on la rêve en fait, mais aussi de montrer que en fait derrière les chiffres il y a des histoires particulières. Chaque histoire de migration est une histoire qui est déchirante à sa manière, et en fait on a tendance à regarder les choses de manière un peu macro et un peu froide. J'ai avec moi là, le rapport de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. C'est 110 millions de personnes qui sont déplacées de force. Quand on a un chiffre pareil en tête, c'est un chiffre qui est tellement vertigineux qu'en fait on a aucune notion de ce que ça représente en fait, et on est un peu perdu face à cet enjeu. Et donc finalement c'est facile de s'en séparer, de regarder les choses en disant bon bah ça me concerne même pas, c'est tellement grand alors qu'en fait chaque parcours, et c'est pour ça que j'ai souhaité en fait que le programme que je soutiens porte le nom de mon père. Oui. C'est pas parce que c'est mon père en fait finalement, c'est parce que c'est une personne qui a vécu en fait la chose, et donc en fait c'est une personne, mais c'est une personne parmi des tant d'autres. Mais raconter une histoire et donner en fait un espace d'expression à des personnes qui vivent encore aujourd'hui cette chose qui est le déracinement, qui en fait une souffrance qu'on n'imagine pas en réalité. Il faut juste se mettre à la place d'un arbre et se dire qu'on enlève les racines, on n'a plus de quoi respirer en fait. C'est avoir des racines, ça reste un besoin vital. Hein. C'est Simone Veil qui l'avait dit, donc on peut lui faire confiance là-dessus. Donc en fait, donc finalement avoir la possibilité de se réenraciner par l'art ou par l'intégration, par des initiatives comme celle de Garance, c'est-à-dire en donnant un accueil qui soit à la hauteur de notre humanité, je trouve que c'est un moyen en fait aussi d'être digne.
Vous écoutez, je pense, donc J'agis ce matin, vous l'entendez, on parle de la migration avec des projets qu'on vous présente à l'occasion des élections européennes. C'est aussi pour montrer le regard européen. Vous avez la parole pour témoigner, pour réagir. N'hésitez pas à nous appeler au 04 72 38 20 23 ou à nous envoyer un mail à l'adresse direct@rcf.fr. Garance Foglisot est avec nous. Vous avez monté l'année dernière le Dignity Tour. C'est un projet à travers l'Europe pour étudier les conditions d'accueil des migrants dans une douzaine d'États. Donc documenter, c'était un objectif important. Et puis aussi ouvrir le débat, ça c'était primordial.
C'était primordial et un petit peu une crainte avant de partir aussi, ce débat, comment ça allait être reçu dans des pays où je connaissais personne, de parler de l'immigration qui était un sujet politisé quand même à travers l'Europe en ce moment. Mais le débat n'a pas eu, en tout cas moi j'étais, le débat n'a pas eu lieu comme on pourrait l'imaginer quand on entend les débats politiques ou les discours politiques. Ça n'a pas eu lieu. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été très, très réceptives à notre initiative. J'ai rencontré beaucoup de jeunes. Et la plupart des personnes que je rencontrais, bon, c'était soit des jeunes, des étudiants, des jeunes engagés, ou alors des personnes qui travaillaient en contact direct avec les personnes exilées. Et je pense que ce sont ces personnes à qui on doit faire confiance quand on propose des programmes sur la migration, parce que c'est eux qui sont confrontés à la réalité de l'accueil des personnes exilées au quotidien. Et bien sûr, les personnes exilées elles-mêmes. Et donc, on avait des débats sur le détail, sur comment on devrait procéder, si on devrait. Mais c'était pas des débats généraux sur l'immigration, oui ou non. Je regardais le débat des candidats pour les élections européennes hier. Et la grande question, c'est est-ce qu'il y a trop d'immigration ou pas. Ça, c'est pas des questions qui se sont posées. J'ai surtout rencontré des personnes qui comprenaient la réalité de l'accueil, ouais. parce qu'ils y travaillent. Donc, les questions étaient plus pointueuses sur juridiquement comment on devrait procéder ou stratégiquement. Mais non, il n'y a pas eu de grand débat sur l'immigration et je pense que c'est pour le mieux parce que c'est pas une vraie question parce que les exilés sont ici et ils sont sur le territoire européen. La question c'est comment est-ce qu'on peut les accueillir dans le respect du droit et pas se lancer dans des débats qui sont irréalistes.
Oui. Pourtant, le débat est là. En tout cas, en France, et on le voit bien dans cette campagne électorale à l'occasion des élections européennes, c'est un sujet qui est le plus important, je l'ai dit en introduction, hein, selon les sondages, selon les Français. Comment on fait, Amir Sharifi, pour ne pas quand même mettre le débat de côté, parce que ce serait aussi ignorer la parole de beaucoup de personnes?
En fait, je pense que ce qui est important, c'est de se mettre à la place des gens. Des deux côtés. Et finalement, moi, je pose la question. Imaginons que la France, demain, se retrouve une situation où les libertés fondamentales soient remises en cause, qu'on soit en conflit et qu'il y ait des personnes qui soient obligées de quitter le pays parce que c'est plus vivable, c'est plus tenable, etc. Et ben, en fait, dans ce cas-là, on se retrouve, nous, à avoir des personnes qui vont quitter la France pour aller dans d'autres endroits. Et je pense qu'il faut qu'on ait cette forme d'empathie, de se dire que un parcours de migration, il faut qu'il soit accompagné par derrière une capacité d'accueil de ces personnes qui sont pas parties de leur plein gré en fait, pas parties par commodité, mais parce qu'elles ont subi quelque chose qui les dépasse complètement. Elles ont déjà vécu au départ une forme de souffrance liée au fait que en fait on les empêche de vivre là où ils sont nés simplement. Donc si on arrive à avoir cette forme d'empathie, on arrive à comprendre à l'inverse que quand ces personnes arrivent aux frontières, elles ont déjà traversé quelque chose qui est en fait insoupçonnable de courage. Et donc en fait c'est simplement avoir, je pense qu'il faut qu'on ait cette forme d'humanité, de se dire comment est-ce qu'on fait pour que ce soit ça se passe le mieux possible. Évidemment, il faut des règles, il faut des cadres. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier, et c'est important de raconter, de tenir compte que chaque parcours est une histoire, est un déchirement au départ, et qu'il faut, il faut donner les moyens en fait, à ces personnes ensuite de retrouver une place. Et je pense que plus on va être dans une démarche qui va être positive, plus on va avoir en fait, un bénéfice en fait, à l'accueil. Et la réalité, c'est que les chiffres sont très positifs. En réalité, je crois que 15% des créations d'emplois sont faites par des personnes qui sont étrangères. Donc, en fait, il y a un potentiel d'entrepreneuriat, d'innovation, de création, en fait, et aussi finalement de renouvellement de notre capacité. De nos forces vivantes dans un pays, d'avoir de l'immigration. Enfin, de toute façon, c'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas. C'est des enjeux. Enfin, quand on parle de dizaines de milliers de personnes qui se déplacent, c'est un enjeu qui nous dépasse. Donc, en fait, il faut juste accepter que ça existe. Et en fait, plutôt que de se dire qu'on a peur, je pense qu'on a en France et en Europe, on a une telle culture, on a une telle histoire qu'on a la capacité, en fait, de rendre ça merveilleux, en fait. Mais il faut, je pense, comme point de départ, avoir cette empathie et cette capacité à à partager, en fait, à écouter l'histoire de chacun.
Oui, Garance, allez-y.
Non, parce que un des grands sujets pendant le tour, c'était l'exclusion des personnes exilées. Oui. Et le discours négatif renforce cette exclusion. Et c'est un cercle vicieux d'ensuite on parle d'échec de l'intégration, de non-intégration. Mais parce que le discours négatif renforce tous les préjugés, les stéréotypes qui renforcent et confortent l'exclusion des personnes étrangères.
Oui, tout à fait. Ouais. Ça va dans c'est exactement pour confirmer ce qu'Amir dit. Amir, justement, en parlant de ces artistes confrontés à l'épreuve de l'exil, ils sont confrontés également au déracinement. Et ça, je crois que votre papa, quand il a dû quitter l'Iran, c'était après la révolution de 1979, il a vécu ce déracinement dans sa chair. Hein, vraiment, ça a été une vraie épreuve pour lui. L'homme de culture qu'il était.
Tout à fait. D'ailleurs, je vais vous raconter un peu notre histoire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que au début, en fait, après la révolution iranienne, vous savez, un an plus tard, il y a eu la guerre avec l'Irak qui a démarré. Donc, en fait, les frontières étaient en train de fermer, les frontières terrestres notamment, et les frontières aériennes. Et donc, en fait, il y avait un choix à faire pour ma famille de se dire est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part. Et donc, la décision était de partir, mais c'est une décision qui a été prise extrêmement rapidement. En fait, quasiment une après-midi, il fallait partir, en fait. Et donc, le départ s'est fait en bus. Faut imaginer en fait qu'on a 2 heures pour faire une valise. On a construit une vie en fait. Mes parents, ils avaient construit une vie en Iran. Ils avaient des postes, ils avaient donc un statut social. Ils avaient ils avaient tout réussi en fait. Tout se passait bien. Ils avaient effectivement mon père, il avait cette dimension intellectuelle. Donc il enseignait à l'université, il avait ses poésies, etc. qui publiait. Mais en fait, il avait finalement construit un monde autour de lui et il était reconnu pour ça. En 2 heures, en fait, on nous dit, on fait les valises, on part. Et on prend un bus et on traverse l'Iran jusqu'à la Turquie. Ensuite, on traverse les frontières de la Turquie. Et arrivé en Turquie, on a fait 4 heures de voyage. Moi, j'étais un petit bébé. Il y avait même pas de lait en fait pour me nourrir dans le trajet. Donc, il fallait aller puiser de l'eau sale dans des endroits en fait pas forcément très 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 hygiéniques, etc. Donc, je suis tombé malade. Enfin, je crois qu'en tant que bébé, j'ai failli passer. J'aurais pu ne pas être aujourd'hui aujourd'hui pour vous en parler. C'était vraiment quelque chose de très précaire, mais en fait on a réussi à faire ce parcours et on est arrivé en France parce que mes parents avaient chacun étudié en France dans les années 70, ils avaient tous les deux à la Sorbonne eu des doctorats de sociologie, donc en fait ils étaient, pour eux c'était je dirais le pays d'accueil le plus naturel en fait. Mais en fait ce qui est terrible, c'est qu'ils avaient un doctorat de sociologie, ils avaient ce parcours et ce bagage je dirais intellectuel, professionnel derrière eux, etc. Mais arrivé en France, ils ont eu beaucoup de mal à trouver du travail. Ils étaient, je dirais, soit surqualifiés, soit ils parlaient pas assez bien la langue, soit, etc. Donc ma mère, elle a commencé comme dactylo dans une ambassade. Faut imaginer qu'elle a un doctorat, ma mère. Donc, elle a commencé comme dactylo. Et mon père, il a mis beaucoup de temps à trouver quelque chose. Il a pris un job de directeur administratif dans une petite PME. Mais c'était pas du tout quelque chose qui lui convenait, en fait, fondamentalement. Donc, il était toujours, c'est pas que d'ailleurs que mon père, c'était aussi ma mère, dans une forme de déracinement parce qu'ils ont un décalage complet entre, la vie qu'ils avaient avant, la vie qu'on leur a imposée parce que, voilà, ils sont arrivés là. Mais ils sont battus. Ils sont battus et ils sont battus pour moi aussi, pour mon frère aussi, qui est décédé entre temps. Mais ils sont battus pour nous. Et en fait, on a chacun pu reconstruire quelque chose. Et donc, je pense que, en fait, derrière chaque histoire, c'est pour ça que je parlais de cette notion de raconter les histoires. Parce qu'en fait, sinon, on oublie, en fait, qu'on devient des chiffres, on est invisibilisé. Mais en fait, derrière ces parcours, il y a un vrai courage. Et en fait, si on est accueilli convenablement, en fait, on a la capacité de faire des miracles, en fait. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé, parce que pour quelqu'un qui quitte l'Iran dans un bus et qui se retrouve finalement aujourd'hui, je parle de moi, à être intégré parfaitement à la société française, vous voyez que je parle sans accent, vous voyez que j'ai un travail tout se passe bien, je dirais que finalement c'est gagnant-gagnant, en fait, parce que aujourd'hui je paye beaucoup d'impôts en France, donc voilà. Et en plus je rends, parce que je crée des programmes, des associations pour les autres. Donc en fait c'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut aussi avoir un regard positif sur ces migrations qui peuvent apporter beaucoup.
D'ailleurs, c'était important aussi, Garance Foglisio, dans votre projet, de donner la parole aux personnes migrantes, au-delà des chiffres, comme vous l'avez très bien dit, Amir Sharifi. Ce qui était important pour vous dans votre démarche, c'était de les écouter, de leur donner une voix VOIX.
Ouais, c'est exactement ça. Et ça n'a pas toujours été facile, parce que dans des pays, quand j'arrivais dans un pays, peut-être deux semaines par exemple, de rencontrer ces personnes. Et c'est souvent à travers les associations que je rencontrais les personnes qui fréquentaient ces associations ou les personnes qui travaillaient dedans pour leur parler de leurs expériences. Et c'est à la fois, quand on parle de leur parcours, c'est à la fois des choses assez traumatisantes, des choses choquantes de leur passage depuis leur pays d'origine à l'Europe. Mais ça a aussi souvent été, quand on parlait pas de leur parcours, assez anticlimactique, j'ai envie de dire, on parle des questions migratoires comme un tel, un sujet chaud, et une fois qu'on parle des personnes exilées, quand j'étais à Lesbos, des personnes qui étaient arrivées dans les semaines dernières en bateau, qui arrivaient en Grèce, qui étaient au camp de réfugiés à Lesbos, que j'ai pu visiter, quand je leur parlais, ils me demandaient, c'était tellement anticlimactique, ils me proposaient à manger, on allait faire du vélo ensemble, c'était vraiment, c'était anticlimactique
Anticlimatique, pardon.
Anticlimatique, c'est un mot anglais, je crois que c'est un anglicisme.
Ah oui,
c'est un anglicisme, mais c'est quand on s'attend à quelque chose de très très impressionnant ou de très différent et que finalement c'est banal. C'est ça, pardon, anticlimactique.
Mais ça doit pas être français. Peut-être, mais je le connais pas. Mais c'est bien, ça nous permet de d'enrichir notre vocabulaire, Amir Sharifi. Mais on entend en tout cas le. Il y a une forme de joie aussi dans ce que vous faites, Garance, dans ce que vous avez pu faire. Est-ce que vous l'avez ressenti?
Vraiment. J'avais un peu cette crainte que ça allait être déprimant de faire ce tour, de parler à ces personnes exilées qui vivent souvent dans une grande précarité quand ils arrivent en France. Ça n'a pas été le cas. Ça a été très joyeux, ça a été très inspirant à la fois de rencontrer les militants et les exilés qui ont une résilience très impressionnante. C'est pour beaucoup que j'ai rencontré en Grèce et en Italie, qui sont passés par la Libye, où l'esclavage et la torture sont connus. Ces personnes très résilientes, et ça a été surtout inspirant.
Allez, on va marquer une petite pause dans Je pense donc j'agis. On va se retrouver dans un instant, Garance Foglisio et Amir Sharifi. On accueillera également notre troisième invité pendant quelques minutes, je l'ai dit tout à l'heure, Vincent Cavaroc. C'est le directeur artistique de la Gaîté Lyrique. Amir, vous nous présenterez d'ailleurs vraiment ce partenariat avec la Gaîté Lyrique. Vous continuez de nous appeler également au 04 72 38 20 23. Vous réagissez par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
10h30 dans Je pense donc que j'agis. On va écouter de la musique. Ça va vous laisser le temps de nous parler de migration, d'Union européenne également au 04 72 38 20 23.
Dis-moi comment, toi comment tu fais avec tes défauts et ce foutu reflet, le regard des gens. Toi tu dis tu t'en moques, paraît que c'est l'époque, que ça passe avec le temps. Les hauts, les bas, les moments de bas, on se connaît tellement, on est presque amis. Dis tu fais quoi quand ça tourne trop fort pour arrêter le bruit. J'ai caché des larmes, arraché des rires, mais les monstres qui parlent me réveillent la nuit. Je veux plus entendre rien maintenant que le bruit du silence. Le bruit du silence. Le bruit du silence. Au revoir les doutes, les j'y arriverai pas. Et tout ce que ça me coûte de ne pas croire en moi. Au revoir les on-dit, au revoir les on-doit. Les complexes qu'on enfouit et cette jalousie face à celle qu'on n'est pas. Les hauts, les bas, les moments de bas, on se connaît tellement, on est presque amis. Dis tu fais quoi quand ça tourne trop fort pour arrêter le bruit.
Le bruit du silence, c'était Mentissa.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Garance Foglizo qui nous accompagne jusqu'à 11h. Garance, je vous rappelle que vous avez 24 ans, vous êtes franco-britannique et on parle de votre projet fou que vous avez réalisé l'année dernière, le Dignity Tour. Et puis Amir Sharifi, vous êtes également avec nous, fondateur et président de la bourse Habib Sharifi. Avant d'accueillir notre troisième invité, peut-être un mot sur les artistes exilés que vous essayez de soutenir à travers cette bourse. Comment vous les rencontrez, comment vous les repérez également?
On organise un appel à projet, donc à l'approche de, en fait, à la suite de notre événement de présentation qui est le jour du printemps au mois de mars. Juste après, en fait, on lance un appel à projet pour que les artistes en fait se manifestent. Et puis on a un jury qui est qualifié en fait avec. Cette année, on a par exemple, on a Atik Raimi qui est quand même une personnalité qui attire en fait par son aura des candidats. Donc Atik Raimi, je le rappelle, c'est quand même un prix Goncourt 2008, membre du festival, du jury du Festival de Cannes, donc quelqu'un qui a une vraie légitimité pour la partie poésie. Et puis on a un partenariat avec la Société nationale des beaux-arts, donc on a sa directrice Isabelle Lawson et puis une consultante en art qui s'appelle Anaïta Vessier qui font partie en fait de notre jury pour les artistes dirais, visuelle. Et enfin, pour la partie musicale, c'est le compositeur Pierre Tillois, qui est un compositeur contemporain, qui a monté beaucoup de festivals internationaux, qui fait partie du jury. Donc, en fait, ces trois personnalités nous aident à chacun aussi identifier des profils. Et puis, l'appel à projet vient compléter le tour de table. Et donc, le jury se réunit à la fin du mois, de mois de mai. Donc, pour ceux qui souhaitent postuler, c'est encore, s'il y en a parmi nous qui nous écoutent, c'est possible de le faire jusqu'au 26 mai. On va se réunir le 27 mai pour étudier toutes les candidatures. L'année dernière, on avait reçu une centaine de candidatures.
Oui.
Et donc, on fait le choix ensuite d'un artiste par discipline artistique. Donc, typiquement, un poète, un musicien, un compositeur et un artiste visuel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on offre à ces artistes, c'est une résidence qui peut être donc physique à la Cité internationale universitaire de Paris ou virtuelle, si c'est plus facile pour eux. Il faut que ce soit des personnes qui sont en Europe. Donc, on a en fait ce lien avec l'Europe grâce à ça. Et puis au bout de quelques mois, en fait, on va regarder leur travail. Les membres du jury vont apporter un regard artistique et d'expertise sur ce travail. Ils vont les aider à améliorer, à aller plus loin. Et puis au bout du chemin, un an plus tard, au mois de mars, le jour du printemps, donc qui correspond aussi à l'anniversaire de la mort de mon père, eh bien, on se réunit à la Gaîté Lyrique et on organise un très très beau concert parce que la Gaîté Lyrique a des espaces magnifiques.
Oui.
Et c'est là où on a justement la possibilité pour ces différents artistes de faire venir les interprètes et d'exprimer en fait leur art. Et tout ça est inspiré en fait à chaque fois par un poème de mon père qui diffère chaque année. Donc l'année dernière, c'était un poème qui s'appelait Le Cri. En persan, on dit Dod. Donc c'était un poème qui parle justement du déracinement finalement. Et puis cette année, le thème est un peu plus positif ou optimiste. Ça s'appelle Aube de l'espoir. Donc, avant l'aube, il y a les ténèbres, bien sûr, mais voilà. Et donc chaque édition a cette dimension très poétique parce qu'il y a au cœur de l'inspiration des artistes un poème.
Et puis des lieux aussi qui changent. Il y avait eu la Philharmonie de Paris, je crois. Le Théâtre des Champs-Élysées. Et donc, cette année, la bourse Habib Charifi s'est associée à la Gaîté Lyrique. Et on a la chance d'avoir avec nous tout de suite Vincent Cavaroc. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Vous êtes le directeur artistique de la Gaîté Lyrique qui se trouve à Paris. Pourquoi vous avez accepté ce partenariat ?
C'est totalement, je dirais, naturel et dans l'élan qu'on essaie de créer à la Gaîté Lyrique depuis qu'on a repositionné le projet il y a un an et demi, où on met au cœur de notre préoccupation ce travail qui est à la fois la croisée entre l'artistique et l'activisme, qui vient mettre en visibilité des sensibilités des artistes qu'on soit on voit peu ou qui ont des parcours de vie comme ça qui ont été bouleversés, que ce soit par la question migratoire, que ce soit par des conflits chez eux. Et donc, on inscrit tout ça, nous, dans un grand cycle qui s'appelle « Scène en résistance » et qui veut vraiment mettre au centre de notre programmation ces grands enjeux. Et c'est vrai qu'on a des partenaires aujourd'hui fondateurs de la Gaîté, comme Singa, qui est vraiment cette ONG qui travaille aujourd'hui sur la question des nouveaux arrivants, qui fait le lien et naturellement, ce projet, il cochait tous les critères pour nous.
Et la Gaîté Lyrique, c'est vraiment un lieu culturel très connu dans le 3e arrondissement de Paris. Et c'est vrai que depuis quelques années, alors je ne sais pas si c'est un repositionnement, mais vous essayez vraiment d'essayer de répondre à l'urgence culturelle et sociale, bien sûr.
Exactement. On se dit qu'on ne peut pas, nous, simplement être un acteur culturel aujourd'hui et être dans un engagement qui ne serait que esthétique ou qui serait reclus sur nous des préoccupations purement artistiques ou culturelles. Il faut aujourd'hui que tous ces champs-là ils soient habités par cette urgence qu'on a tous et cette responsabilité à répondre aux grands enjeux qui nous font face. On a évidemment un enjeu qu'on défend beaucoup, qui est la question du climat, et donc on essaie systématiquement, là c'est par exemple le cas en ce moment, on a une grande exposition qui retrace 20 ans d'art et d'écologie avec toute une nouvelle génération d'artistes qui depuis 20 ans sensibilisent à travers leur création aux enjeux climatiques, donc ça s'appelle Coalition, ça c'est un exemple, mais derrière effectivement on va aussi ouvrir d'autres axes comme celle des réfugiés. Par exemple, hier soir on ouvrait le premier newcomer comedy show. C'est une soirée de stand-up où chaque personne qui passait sur scène a été réfugiée, a un parcours de déracinement et finalement on a fait le sujet de leur sketch. Et là c'est marrant, c'est comment on voit qu'avec soit à travers l'art, soit à travers l'humour, soit à travers la création au sens large, on peut, comme ça, semer des graines et donner un regard très très différent sur la question de l'exil et de la migration.
Amir Sharifi, c'était une évidence de s'associer à la Gaîté Lyrique dans le cadre de la présentation des œuvres des artistes exilés.
Oui, en fait, c'est une histoire qui a démarré en fait avec une rencontre, avec une autre association qui s'appelle Engage, avec Jérôme Cohen, à qui j'ai posé la question, parce qu'on le connaissait par ailleurs et par nos réseaux respectifs, et il m'a dit faut absolument que tu ailles voir Singa, parce que en fait, si tu veux donner une voix à des artistes déracinés, si tu veux en fait donner un regard positif sur la question de la migration, de l'exil, finalement, Singa c'est le meilleur acteur possible. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être mis en relation avec des responsables chez Singa qui, assez rapidement, ont accepté de signer un partenariat avec nous sur plusieurs années, de coopération un peu générale sur différents aspects, notamment l'aspect diffusion en fait, des œuvres de nos artistes. Et dans le cadre de ce partenariat un peu général, il y avait en fait cette idée qu'on pourrait, à un moment donné, éventuellement produire, donner un espace d'expression à la Gaîté Lyrique aux artistes qu'on aura sélectionnés. Donc on a mis ça en place l'année dernière. Et on espère vraiment qu'on pourra reproduire cette expérience qui était très positive et très esthétiquement à la fois très réussie, mais également comme cela vient d'être souligné, c'est non seulement esthétique et donc ça touche notre cœur, mais ça touche notre cœur d'autant plus que derrière il y a un fort engagement, il y a un message, il y a une réponse à une urgence, il y a quelque chose en fait qui relève d'un universel de ces histoires en fait qui sont chacune particulières mais qui racontent quelque chose qui nous dépasse tous et qui nous réunit en même temps.
Merci beaucoup Vincent Cavaroc d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. C'était rapide, mais on peut aller sur votre site gaîté-lyrique.net pour retrouver toute votre programmation. C'est très éclectique, il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci beaucoup Vincent Cavaroc.
Merci à vous.
Allez, on continue cette émission. Garance Foglisot, vous, alors c'était pas la Gaîté Lyrique, c'était plutôt un journal avec lequel vous avez travaillé. Pour raconter justement tous vos témoignages lors du Dignity Tour. Si je ne me trompe pas, le Tourillon.
Ah, le Tourillon.
Ouais. Je suis bien informée.
C'est ça, c'est encore en cours. Oui. C'était pour raconter plutôt d'un type journal de bord et raconter un petit peu sur chaque pays. Mon voyage, de l'aspect voyage à vélo et de l'aspect rencontre avec les exilés, les problématiques que je rencontrais juridiques et sociales dans les différents pays. Et voilà, nous plutôt raconter d'un style de journal de bord pour le Tourillon.
Et tout en essayant aussi de publier des informations sur les réseaux sociaux, ça aussi c'était vraiment important.
C'était vraiment important de
rendre communiquer, compte, finalement.
De partager. Ça a été très riche pour moi de découvrir tout ça, mais c'était pour moi, c'était vraiment la plus-value, c'était de pouvoir partager ça avec toutes les personnes qui s'étaient engagées à Rennes dans l'initiative et à la suite du voyage. En fait, toutes ces conversations avec tous les acteurs que j'ai rencontrés pendant mon voyage ont été tellement riches. J'en ai ressorti 15 propositions qui sont ressorties, certaines qui sont déjà en place dans certains pays, et qu'on les a regroupées dans un petit livret qui est en cours de fabrication, d'élaboration. Il est rédigé, mais je travaille avec un graphiste et c'est ça aussi, ça m'a fait penser à mélanger l'artistique et l'activisme. Et c'est on fait un fanzine, donc un livret qui est pour l'objectif d'être un objet artistique, mais qui rassemble les propositions des citoyens européens pour un accueil digne des exilés.
Amir Sharifi, on en a un peu parlé dans l'émission. Garance vient de le rappeler. L'art, qu'apporte l'art d'après vous pour raconter l'exil? Est-ce que l'art peut avoir un vrai rôle?
En fait, un parcours de migration forcée, ça génère un déracinement qui est une souffrance. et le matériau artistique, ça permet de l'exprimer en fait. Je vais juste prendre un vers très connu de Alfred de Musset qui dit « Ah, frappe-toi le cœur, c'est là que réside le génie ». Finalement, c'est « frappe-toi le cœur », en fait, les romantiques français, en fait, ils se frappaient le cœur parce qu'ils avaient des souffrances amoureuses. En fait, faut imaginer qu'il y a d'autres formes de souffrances qui nous amènent aussi à trouver une forme de génie. Et donc, les artistes, ceux qui ont vécu ces migrations, ils sont doublement porteurs d'une souffrance, donc d'un langage particulier. C'est que d'abord, ils vivent comme tous ceux qui traversent les frontières de manière forcée, ils vivent quelque chose qui est très difficile. Mais en plus, ils ont cette sensibilité particulière à fleur de peau. Ils captent un peu ils captent un peu l'essence du temps. C'est pour ça que c'est intéressant finalement de leur donner à eux un langage. Ils sont un peu à l'avant-poste de ces grands changements géopolitiques, climatiques et autres qui nous touchent. Ils ont la capacité en fait de capter tout ça et de le rendre dans un langage qui n'est pas celui qu'on a, vous et moi, aujourd'hui, qui est un langage assez rationnel, où on explique les choses. En fait, c'est comme la chanson qu'on a écoutée juste avant, là, où on parle du bruit, du silence.
Ouais, tout à fait.
Voilà, c'est cette musique, en fait, on n'a pas besoin forcément d'écouter les paroles, on est porté par quelque chose, et on est emporté, dans une intention. Et c'est ça la puissance de l'art, je trouve, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de rationaliser les choses, on peut, quand on assiste au concert ou au spectacle qu'on a organisé à la Gaîté Lyrique, on voit, en fait, des voix qui s'expriment, des poésies qui sont racontées, qui sont récitées. On écoute du piano, on écoute des violoncelles qui font des sons un peu stridents, etc. On voit tout ça, on entend tout ça. On ne sait pas forcément où l'artiste veut nous emmener. Parfois, c'est un peu abstrait, parfois, c'est plus concret, plus tangible. Mais au final, on vit une expérience qui nous touche au cœur. Et c'est ça qui est très fort avec l'art, c'est que c'est un langage qui, du coup, est tout à fait universel, qui nous touche indépendamment de notre parcours, de ce qui nous est propre, en fait, d'où on vient, de là où on habite, de l'âge qu'on a. On a une capacité, en fait, à toucher tout le monde et de raconter une histoire qui est singulière. En même temps qu'elle nous rapproche de quelque chose qui est très fort.
On va tout de suite entendre une auditrice, Marie-Josée, au 04 72 38 20 23. Bonjour Marie-Josée. Ah, je pense que Marie-Josée a raccroché, je l'ai fait patienter quelques minutes déjà. C'est pas grave. Si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous rappeler au 04 72 38 20 23 pour témoigner. C'est de ma faute. J'ai trop patienté. Voilà. J'ai fait trop patienter plutôt. Donc ça s'est passé à la Gaîté Lyrique il y a déjà quelques mois. Hein. C'était fin mars, si je me trompe pas, Mir Sharifi. Ça s'est bien passé?
Oui, je dois vraiment rendre hommage à l'association Gondi Chapour qui a un rôle essentiel dans l'organisation de ces événements, la direction artistique et puis la vision en fait qu'on peut en donner. Et puis évidemment les équipes de la Gaîté Lyrique et puis tous nos partenaires qui sont impliqués pour faire ça, pour que ça se passe. Il y a évidemment aussi certains de nos mécènes, la Fondation Hippocrène en particulier qui est très importante pour nous parce qu'elle nous fait aussi cette connexion avec la question européenne et puis la Société nationale des beaux-arts. Enfin, en fait, on a un ensemble de l'atelier des artistes en exil, Sama for All, et puis bien sûr la Cité internationale universitaire de Paris. En fait, on a un écosystème de partenaires autour de nous qui font que, en fait, même si on est une petite association relativement récente, réellement, en fait, on a un ensemble de partenaires qui font que on arrive à faire des choses d'une très grande qualité, je dirais, sur le plan artistique. En tout cas, c'est les retours qu'on a eus. Et puis, du coup, on atteint la cible parce que la cible visée, c'est de faire en sorte que les personnes qui assistent à ces événements, qui assistent physiquement ou qui pourraient y assister, on va faire un petit film et donc on pourra aussi permettre à ceux qui veulent le vivre en différé puissent également le faire, ils puissent ressentir en fait ce message, qu'ils puissent en fait se connecter en fait à un poème. En fait, c'est ça le point de départ, c'est un poème qui part de la sensibilité d'un poète qui a vécu une histoire. On se connecte à ce poème, mais ensuite on voit ce poème exister sous des formes absolument inédites. Et c'est ça aussi la force de la création contemporaine, c'est que on n'écoute pas pour la millième fois la symphonie 40 de Mozart qu'on connaît. On écoute quelque chose qui est nouveau, qui est pas dans notre champ de connaissances ou qui nous crée un imaginaire nouveau et qui en même temps nous raconte quelque chose sur en fait d'où on vient.
Oui. Vous avez cité la Fondation Hippocrène, qu'on remercie parce qu'elle nous permet ce matin aussi de monter toutes les émissions de cette semaine à 10h notamment, quand on peut entendre des jeunes, c'est toujours très agréable. Donc merci encore à la Fondation Hippocrène. Garance Fogliso, je me retourne vers vous et on revient sur le Dignity Tour. Est-ce qu'il y a une anecdote, quelque chose qui vous a marqué pendant ce périple à travers l'Europe? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous revient là dans l'émission?
J'ai eu beaucoup d'anecdotes, des anecdotes joyeuses surtout. J'ai un moment qui m'a énormément marqué, c'était sur la route des Balkans. Je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais la route des Balkans, c'est une route qui va de la Turquie, qui passe par les Balkans jusqu'en Allemagne, qui est...
C'est une route migratoire très connue.
Voilà, qu'une route migratoire qui est prise à la marche. Et du coup, le long de cette route, il y a des bidonvilles, enfin des campements, donc qui ressemblent à des bidonvilles de ces personnes qui avancent. Et j'étais à Trieste, qui est sur la route des Balkans, et j'ai été hébergée par une association. On faisait des maraudes là, on rencontrait les exilés. Donc là, c'était un peu typique comment je rencontrais des personnes exilées par ces associations, des maraudes. Et un soir, la personne avec qui j'étais, on a mis de la musique et tout le monde dansait. C'était surtout des personnes afghanes, c'était de la musique afghane. Tout le monde était en cercle. C'était surtout des hommes qui sont sur cette route qui dansaient. Et c'était un moment très, très fort et aussi un moment... très, très mignon où au début, bon, personne n'osait danser. Finalement, bon, quelqu'un se lance. Et c'était quand je parlais de... Enfin, anticlimatique, ce n'est pas un mot français. C'était un moment tellement du quotidien qu'on connaissait, qu'on pouvait se reconnaître. Enfin, ça me faisait penser, je sais pas, à un mariage ou une fête de famille où on n'ose pas trop danser. Et là, les personnes étaient en cercle. Bon, finalement, tout le monde avançait. C'était une fête. Et c'était aux abords de ce bidonville, des campements. Dans de la boue, il avait beaucoup plu, il y a des rats qui traversaient. Moi, la première fois que je suis rentrée dans ce campement, ça m'a vraiment prise d'émotion de savoir qu'il y a des centaines de personnes qui dormaient là dedans depuis des semaines ou des jours. Bon, ça dépendait quelle allure les gens arrivaient. Mais alors, quand nous, on faisait des maraudes là, tout de suite, on nous proposait de manger avec eux. On était invités à chez eux, enfin, alors que c'était une tente et c'était, enfin, c'est pas un peu cette double réalité de voir que c'était c'était une misère ce campement, mais qu'il y avait une chaleur
humaine dans la misère.
Voilà, et qu'il y a vraiment cet accompagnement où tout le monde dansait. Enfin, c'était fallait être là. Enfin, c'était vraiment impressionnant comme moment.
Amir Sharifi, vous aussi, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, un artiste ou une artiste qui vous a marqué, une œuvre?
Oui, je dirais que chaque artiste a vraiment une sensibilité spéciale, mais ce qui était vraiment un moment fort de notre dernier spectacle, La Gaîté Lyrique, c'est quand on a eu Mostafa Azara qui a récité sa poésie en persan, en duo avec Leyli Anvar, qui avait traduit ses poèmes. Donc Leyli Anvar est une universitaire, maître de conférence à l'INALCO notamment, qui est vraiment spécialiste de poésie, littérature persane de très très haut niveau. Et donc elle avait traduit ses poésies, c'était la marraine de notre promotion, de la dernière promotion. Et donc les deux sur scène, ces deux langues en fait, le français, le persan qui se répondait, le persan de Mostafa qui était un persan en fait avec un accent afghan, qui racontait en fait son histoire à lui d'exil, mais qui finalement, quand je l'ai entendu, il racontait aussi l'histoire de notre famille. Et puis il racontait aussi finalement le cri, pour vous donner toute l'histoire en fait, ce poème Le Cri, mon père l'avait composé en 1972 quand sa nièce Sheida a été amputée d'une jambe à la suite d'un sarcome, d'un cancer des os. Elle a été opérée à Londres, elle vivait en Iran et c'est mon père en fait qui était celui qui l'a prise sous son aile pour qu'elle se fasse opérer parce que le père de Sheida en Iran était pas capable de faire ça. Et donc donc c'est vraiment mon père qui est devenu son père de substitution, qui l'a pris avec lui, qui l'a accompagné. Et en fait, ce poème, il l'a écrit le soir où ils ont décidé en fait d'amputer la jambe. et où en fait il était face à la mère de Sheida dans un petit restaurant, dans un petit café à Londres, et où en fait il avait envie de pleurer, il avait envie de crier, il avait envie de dire toute l'horreur que c'était. Et finalement, bah en fait, il a fait un joli sourire, il avait son verre de vin, il était tout à fait jovial. Mais et sur une nappe, en fait, il a écrit ce poème pour exprimer en fait toute la souffrance qu'il avait en lui. Voilà, et ce cri intérieur en fait qu'il avait. Et en fait, ce qui était magnifique avec Mostapha, c'est qu'il avait encapté en fait cette émotion, et il a raconté avec ses propres mots, avec sa propre histoire, et donc c'était un moment.
Ça a été marquant. C'était marquant pour vous. Voilà. Garance Foglisso, Amir Charifi, on arrive à la fin de cette émission. Vous savez qu'on est à 25 jours des élections européennes. On organise toute une semaine spéciale dont je pense donc j'agis, et on va continuer de parler d'Europe tout de suite avec notre chroniqueuse. Et nous retrouvons Marion Denis du think tank Vers le Haut. Bonjour Marion.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Alors on reste sur ce thème de l'UE, puisque vous allez nous parler de jeunes européens et de l'engagement citoyen.
Oui, alors les élections européennes arrivent à grands pas et on nous répète sans arrêt que les jeunes ne votent pas et ne se sentent pas assez concernés par la politique. Il y a tout de même des jeunes qui sont très engagés et c'est le cas des jeunes de l'association Le Parlement européen des jeunes. Alors le Parlement européen des jeunes, c'est une association d'éducation à la citoyenneté active et européenne créée en 1987 et son objectif principal est d'encourager les jeunes européens à participer au processus démocratique européen et à s'exprimer sur les questions qui les concernent.
Et comment fonctionne-t-il ce Parlement européen des jeunes ?
Alors le Parlement européen des jeunes organise chaque année des sessions internationales rassemblant des jeunes de 16 à 30 ans de tous les pays membres de l'UE. Et au cours de ces sessions, les participants simulent le travail du Parlement européen en débattant de résolutions sur des sujets d'actualité européenne. Alors le Parlement européen des jeunes est une expérience enrichissante qui permet aux jeunes de développer leurs compétences en matière de débat, de négociation et de travail en équipe, et d'apprendre davantage sur l'UE et son fonctionnement, de rencontrer des jeunes d'autres pays européens et tisser des liens d'amitié, et surtout se faire entendre sur les questions qui les concernent et influer les politiques européennes. Le Parlement européen des jeunes est une formidable opportunité pour les jeunes de s'impliquer dans la vie démocratique de leur continent.
Et comment on peut participer, si on est jeune, justement, au Parlement ?
Alors, si vous êtes âgé de 16 à 30 ans et que vous souhaitez participer à une session du Parlement européen des jeunes, vous pouvez vous inscrire sur le site internet pejfrance.org et adhérer à l'association. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter le 9 juin prochain. Si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, il est encore temps. Vous pouvez faire les démarches en ligne jusqu'au 30 mai et sur le site servicespublic.fr. C'est important.
Merci beaucoup Marion Denis de le rappeler. Et puis on peut aller sur le site verslehaut.org pour en savoir plus également. Amir Charifi, Garance Oglisso, merci encore. Garance, vous êtes jeune, alors tout comme vous Amir, hein, pardon, je ne veux pas faire d'agisme. Garance, pourquoi il faut aller voter, d'après vous, aux élections européennes le 9 juin ?
Il faut aller voter parce qu'il y a encore plein de choses à faire en Europe et qu'il y a plein d'idées qui existent et qui sont à mettre en place et pour les mettre en place, pour améliorer l'accueil, pour continuer ces idées qu'on avait en Europe, il faut aller voter pour des candidats qui proposent un accueil digne.
Et vous, Amir Charifi, question simple, réponse rapide si possible. Pourquoi il faut aller voter ? Pardon,
Il faut voter, c'est un devoir citoyen, et puis voter pour l'Europe, c'est un moyen de assurer une cohésion de nos humanités.
Voilà, il faut aller voter, on va vous le répéter tout au long de cette semaine, et puis on va vous répéter également d'aller vous renseigner sur les listes, sur les candidats, allez lire, ne vous fiez pas forcément aux candidats que vous avez l'habitude de soutenir. On vote pour l'Europe, on vote pas pour la France, c'est totalement différent, donc allez bien vous renseigner, c'est très important. Merci beaucoup à tous les deux, Amir Charifi et Garance Foglisso, de nous avoir accompagnés. On mettra les liens de vos sites sur notre site rcf.fr. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait en studio. Merci également à Pascal, à Catherine, à Baptiste également à la réalisation ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. On va se retrouver demain pour finir déjà notre semaine spéciale élections européennes avec Jean-Baptiste Labeur. On parlera des questions de défense. Et puis après la défense, c'est la paix. Comment on peut arriver à construire la paix tous ensemble? Ce sera demain de 9h à 11h dans Je pense donc j'agis. Le programme, vous pouvez le retrouver dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis. Bonne journée à tous.